Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À 1h30 au sud de Toulouse et à 20 km à vol d'oiseau au nord de la frontière espagnole, se trouve Bagnères de Bigorre, ville de 8000 habitants située en pays bigourdin, ville de petite industrie, de haute technologie, ou ville de Termes située à plus de 500 mètres au pied des Pyrénées. Bagnères de Bigorre fait de la résistance. Une ville, une paroisse, une histoire sainte, rencontre. Zoom sur le diocèse donc de Tarbes et Lourdes et sur la paroisse donc de Bagnères de Bigorre en ce mardi matin, comme on en a l'habitude de temps à autre, on se balade dans nos diocèses pour découvrir les trésors de la vie chrétienne de toute cette grande région Occitanie. Nous allons donc pendant deux mardis aller sur le diocèse de Tarbes et Lourdes, voyage de multiples fois reporté à cause des conditions sanitaires que vous connaissez, chers auditeurs, et ce matin on est avec eux. Alors eux autour de la table. Antoine Mérillon, vous êtes donc prêtre du diocèse de Tarbes et Lourdes et curé doyen du secteur paroissial du Haut-Adour. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Pierre Gardère, vous êtes diacre donc et vous êtes diacre et vous officiez sur ce même secteur paroissial du Haut-Adour. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Alain Botte, vous êtes officier à la retraite de la Marine et responsable de l'accueil Notre-Dame. On fera connaissance avec vous. Bonjour.
Bonjour.
Et Joël Fradé, vous êtes vous aussi sur cette paroisse catéchiste et relais pour le village de Montgaillard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à cet appel. Alors on va commencer par, on va dire, faire connaissance avec le pays. Vous me taquiniez juste avant l'émission me disant que j'étais presque un Parisien de ne pas être venu ici me promener. Présentez-nous. Allez, on va commencer avec vous, Antoine Mérillon, et puis on donnera la parole à nos autres invités. Donc nous sommes en plein pays bigourdin, c'est bien comme ça qu'il faut le dire.
Tout à fait.
Si on devait faire un petit survol à vol d'oiseau de votre secteur paroissial, à quoi ressemble-t-il ?
Donc une jolie petite vallée qui part du col d'Aspin et du col du Tourmalet et qui arrive jusqu'au pied de Tarbes, pas tout à fait, qui s'arrête à Montgaillard, la patrie de notre paroissienne qui est en face de nous. Et donc cette vallée où nous avons une vingtaine de villages, le gros bourg c'est Bagnères avec 8000 habitants comme vous le disiez en commençant. Et puis nous avons donc des petits villages, des tout petits, mais quelques gros villages qui sont plutôt tous des villages coteaux ou qui sont dans le piémont pyrénéen, pas trop élevés grâce à Dieu pour nous en voiture l'hiver. Enfin, nous avons plus trop d'hiver ces temps-ci. Et donc, c'est plus facile d'accès.
Ça veut dire que les hauts sommets que l'on voit quand on arrive sur la route, par exemple, entre autres le pic du Midi de Bigorre, ce n'est pas votre secteur paroissial. Vous arrêtez avant la haute montagne, vous.
Voilà, c'est notre confrère de Campan qui va au pic du Midi, enfin plutôt la station de la Mongie.
Voilà, donc c'est sur le secteur paroissial du Haut-Adour, mais ce n'est pas en propre la paroisse dont vous avez la responsabilité.
Voilà, tout à fait.
Voilà, on fera connaissance un peu plus avec votre secteur paroissial. Alors, mon petit doigt m'a dit que vous étiez montagnard. On imagine qu'il y en a l'un ou l'autre qui le sont. Parlez-nous des quelques montagnes avant qu'on descende un peu dans la vallée.
Alors,
où est-ce que vous allez vous promener tôt le matin? On le verra plus tard. Hein.
Non, mais alors. Pour ne pas prendre la voiture, nous avons qui domine notre ville de Bagnères à 840 mètres. Nous avons Notre-Dame du Béda, qui est à 840, c'est une statue qui a été implantée par des dames paroissiennes à la fin du 19e siècle et qui domine Bagnères. Et puis, si on prend la voiture, nous avons pas trop loin. Alors, nous avons bien sûr le Lisée de Hunteblanc, la Montagnette, la vallée de...
Ah. Vous séchez, c'est pas grave.
Voilà, je sèche. Et puis, bien sûr, en allant un peu plus loin, nous avons l'Arbison, nous avons le pic du Midi, et puis tous les pics qui dominent la station de la Mongie.
On m'a dit que, alors oui, il y a une station, on verra. On m'a dit aussi que vous étiez responsable d'un pèlerinage. C'est peut-être l'occasion de parler un peu montagne. Qui vous tient à cœur, pèlerinage franco-espagnol, le pèlerinage de la
Fache.
De la Fache.
Alors, Fache.
C'est votre secteur paroissial ou pas du tout?
Pas du tout.
Ah, on va trop loin alors.
Pas du tout, on va trop loin. C'est au-dessus de Cotteret, du pont d'Espagne. Et au bout de la vallée du Mercado, à la frontière franco-espagnole.
Bon.
Et on essaie de maintenir ce pèlerinage dont on a fêté cette année le 78e anniversaire.
En tout cas, on est dans les montagnes. À propos des montagnes, j'en profite hein, pour ce que j'ai glané en préparant cette émission. Alain Botte, vous, ça vous arrive aussi d'aller dans les montagnes. Vous me disiez que vous étiez habitué des estives quand vous êtes arrivé pour cette émission. Vous laissiez entendre que vous alliez bientôt monter. Parlez-nous un tout petit peu des estives. Faites-nous rêver.
Eh bien, c'est-à-dire que j'aime bien aider les personnes qui sont autour de moi, et en particulier un éleveur. Donc il a besoin d'un coup de main en montagne l'été pour l'accompagner, soigner, surveiller le troupeau. Donc on monte effectivement au moment de la transhumance, au moment de juin en montagne. C'est dans le massif du Montaigu, tout près du sommet. La cabane est à 2000 mètres d'altitude. Nous avons redescendu les brebis en fin septembre, quand il y a eu quelques tempêtes de neige. Il a fallu un peu précipiter le mouvement. Maintenant que tous ces animaux sont à l'abri, que les vélages sont bien faits, les agnelages sont bien effectués également, nous allons remonter pour faire un peu le ménage dans la cabane. Donc cette semaine, on profite du beau temps pour aller faire nettoyer, ranger, redescendre, mettre à l'abri avant la saison hivernale.
Alors on peut dire que les stations de ski aussi ne sont pas loin. Vous les avez citées tout à l'heure, monsieur Labbé. Est-ce que vous pouvez me les redonner ? C'est la station d'hiver de La Mongie, c'est ça ?
Essentiellement, c'est La Mongie. Dans notre vallée, c'est La Mongie.
Et près du plus grand domaine skiable des Pyrénées. Hein,
voilà, La Mongie, de votre côté du col du Tourmalet, Barèges. Et donc, comme les deux stations sont reliées, donc ça fait une très grande station.
Ça fait combien de kilomètres de piste, sans vouloir vous poser une colle ? Ah, il se passe le bébé, hein. On ne voit pas, heureusement, ce n'est pas la télé. Pierre Gardère ?
Non, au moins 5 kilomètres.
Au moins 100 kilomètres. Alors, vous pouvez repasser le ballon de rugby donc à l'abbé Mérillon. Si vous deviez nous parler un peu de cette ville, d'abord de votre secteur paroissial. Donc, vous êtes trois prêtres déjà. Donc, on va pas faire d'exégèse diocésaine, mais quand même, tout seigneur, tout honneur. Comment vous partagez un peu ce secteur paroissial du Haut-Adour, monsieur l'abbé ?
Et donc, il y a trois ensembles paroissiaux. Donc, monsieur l'abbé Lacaze, qui est à Campan et qui est à le haut de la vallée. Votre serviteur Bagnères, et puis on part à l'est et à l'ouest, parce que là, la vallée est encore un peu large, et donc il y a du monde. Et puis il y a un village où il y a un frère prêtre qui s'occupe de Pouzac, qui est à 2 kilomètres de Bagnères, mais voilà, il est là sur Pouzac.
Voilà, donc il y a des vénards aussi qui sont presque sur les hauteurs.
Il ne faut pas oublier que j'ai la grâce d'avoir deux diacres.
Deux diacres, hein, Roland Delapierre, qui est donc diacre, mais qui n'est pas présent dans cette émission, et donc Pierre Gardère. On va largement faire connaissance avec vous, puisqu'à la fin de cette émission, c'est vous qui avez gentiment accepté, généreusement accepté de donner un peu votre témoignage de vie chrétienne aux auditeurs. La ville maintenant, Bagnères de Bigorre, partant du principe que tout le monde n'est pas un bigourdin pure souche ou ne va en général dans ce pays. Si vous deviez le présenter, Pierre Gardère, commencez de présenter un peu cette ville. J'ai lu en préparant l'émission qu'il y a ici une industrie de petites PME très versée en haute technologie, souvent en technologie de pointe, entre autres dans le secteur de l'aéronautique.
Oui, tout à fait, puisque bon, nous avons Eureva, entre autres, qui est présent chez nous, et d'autres, bien sûr, mais effectivement, c'est des sous-traitants d'Airbus, pour la plupart.
Et donc, les sous-traitants vont loin, en fait, hein, de Toulouse. Hein, c'est...
Oui, mais on n'est pas si loin de Toulouse que ça.
Oui, vous avez raison. C'est
même arrivé jusqu'à nous. Donc, non, on n'est pas si loin que ça. On a effectivement la possibilité d'avoir ces industries qui... Vous savez, au départ, c'était quand même une ville industrielle, puisque nous avons eu jusqu'à 5000 ouvriers ici, sur Bagnères.
Ah oui. À quelle époque ?
Oh, il n'y a pas tellement longtemps, ça fait à peu près une cinquantaine d'années, 50-60 ans. Parce que nous avions les usines Soulet qui fabriquaient des wagons, mais alors pour le monde entier. Donc là, nous avions quand même un berceau important. Et lorsqu'ils ont fermé, on a eu très très peur. Mais bon, ça s'est scindé en petites unités. Alors bien sûr, on a perdu du monde, mais on a quand même la possibilité de les avoir. Et on attend avec impatience l'ouverture de la ligne de chemin de fer entre Tarbes et Bagnères, qui nous permettra effectivement de développer ce côté industriel.
Alors, si vous deviez continuer de présenter la ville, si on reste sur l'aspect économique, pour commencer, de quoi vit la ville ? Les stations thermales, un centre hospitalier important aussi, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. La station thermale est quand même très importante, puisqu'on doit être 3e ou 4e, non, peut-être pas 3e, 3e ou 4e à peu près sûr, des villes thermales françaises. Donc, le nombre exact, je ne pourrais pas vous le donner. Bon, bien sûr, cette année, c'est un peu particulier. Donc, mais en fait, nous avons quand même eu un certain nombre de, de, de personnes, de curistes qui sont venus donc dans notre station. On trouve de suite le changement. Vous savez, quand les thermes sont ouverts, la ville change complètement. Je dirais pas qu'elle double, mais enfin, elle a une vie tout à fait différente.
Vous avez l'habitude de dire d'ailleurs 8000 habitants, 8000 curistes, c'est ça?
Oui, c'est ce qu'on dit maintenant. Bon, c'est sûr que là-dedans, on y compte les accompagnants des curistes. C'est-à-dire que bon, beaucoup de gens viennent en couple et il y en a qu'un qui fait la cure. Mais enfin, disons qu'on est quand même, à la base, une ville d'eau.
Et c'est aussi une ville de touristes. Les gens s'arrêtent avant d'aller après dans les stations de ski ou en fait ils passent à travers Bagnères?
Alors, il y a deux aspects. Vous avez l'aspect hiver et l'aspect été. Bon, dans l'aspect hiver, il est clair que les gens vont le plus vite possible dans les stations, que ça soit la Mongie dont on a parlé, que ça soit Payolle pour le ski de fond. Effectivement, ils passent par Bagnères. Certains ne trouvant pas d'hébergement dans la vallée viennent jusqu'à Bagnères pour se loger. Mais enfin, c'est pas quand même non plus une priorité de venir à Bagnères. Sinon que pour l'après-ski, on les trouve à Bagnères, oui. Pour l'après-ski, on a en particulier un centre ludique qui s'appelle Aquensis, dans lequel on retrouve beaucoup de skieurs de la Mongie et leurs familles.
Donc c'est aussi une ville où il y a un centre hospitalier important, on y reviendra. En tout cas, ça oriente un petit peu la pastorale ici. Monsieur l'abbé, si vous deviez présenter un peu on va dire le grand troupeau élargi dont vous avez la responsabilité, vous me disiez que donc Bagnères de Bigorre élargi, ça faisait à peu près 15 ou 17, 18 000 habitants, même presque. Hein.
Dans le secteur, l'ensemble du doyenné ou secteur, c'est en gros 18 000. Pour chez nous, c'est 14 000, 15 000.
Alors, qui sont ces gens? Font-ils exception, on va dire, à la déchristianisation de la France? Ici, fait-on de la résistance du côté de la foi chrétienne? Comment vous les présenteriez? Un peu de tout âge, tout profil?
Oui, hélas, c'est comme dans toute la France, ce que vous disiez, tout âge, tout profil. Et hélas, quand on aime, il ne faut pas compter. Et surtout quand il s'agit de paroissiens, mais le berger doit compter ses brebis, savoir s'il en manque. Et il en manque beaucoup. Voilà. Et donc, il y a le troupeau de Bagnères, c'est 8000. Donc, le dimanche, enfin, il faut pas le dire, mais enfin, on arrive à 1% ou 2%, même pas. Et puis, on a trois gros bourgs, Ciotat, Trébons et Montgaillard, qui ont 600 habitants. Et puis, alors, des tout petits villages autour de chacun. Et donc,
c'était une terre particulièrement chrétienne. Il y a des coins, quand même, comme ça, dans l'Occitanie. On sait que c'était des terres qui donnaient des prêtres parfois.
Oui,
plusieurs par famille. Est-ce que c'était le cas du pays Bigourdan?
Un peu, puisque la Sainte Vierge a choisi de venir par chez nous.
Ah, bonne réponse. Je vois que monsieur l'abbé, il a depuis longtemps.
Et en plus, elle est venue à côté de Bagnères. Elle serait venue, c'est pas reconnu encore, mais pour nous, elle est venue.
Vous savez pas si elle a dit à Bernadette qu'elle était bigourdane ou pas, non? Non, mais elle a parlé en bigourdan.
Voilà, tout à fait. Et elle est venue également à Asté. Et au XVIe siècle, un moment où il y avait une épidémie de peste, et une certaine Liloy. Et donc, elle a invité Liloy et les habitants de prier pour que cette épidémie de peste s'arrête. Et heureusement qu'enfin, ils se sont mis à prier, ça s'est arrêté.
Alors, je propose dans cette première partie, avant qu'on fasse une première pause musicale, qu'on fasse un petit peu connaissance avec vous. Alors, vous me direz, en général, on est le moins bien placé pour faire son propre portrait. Mais on m'a dit du bien de vous, figurez-vous, c'est tant mieux. Voilà, que vous étiez donc un curé attentif, un homme de prière, un peu poète dans l'âme et montagnard. Alors, je vais pas vous laisser commenter votre vie spirituelle, ça serait malvenu. Mais si on revient un petit peu sur votre amour de la montagne, vous levez fort tôt le matin et mon petit doigt m'a dit que ça vous arrivait très tôt d'aller un petit peu grimper sur les collines alentour.
Ah ben c'est surtout aller visiter Notre-Dame du Bénin. Oui, j'essaie d'y aller. Là, hélas, je suis privé à cause du confinement. J'essaie d'obéir. C'est un sacrifice aussi.
Notre-Dame du Bénin, c'est donc la Vierge dont vous parliez qui surplombe.
Domine. Et on n'a pas à prendre la voiture. Il y en a pour une heure. Enfin, en marchant bien, c'est trois quarts d'heure, mais en main. Hein. Et donc, ah oui. Il faut pas le dire, mais j'y vais de nuit. Enfin, je pars tôt le matin. Comme ça, je rentre tôt. Personne ne me voit. Je vais voir les étoiles. Il y a des étoiles filantes. Et je contemple les avions qui passent aussi, parce qu'avec l'application, je vois d'où ils viennent, où ils vont. Et puis, on vénère, si un Bigourdan ne vénère pas Notre-Dame.
Et puis, vous avez vu surtout Bagnères de Bigorre, peut-être vous aussi. Priez aussi pour les personnes
tout
présentes.
Tout à fait, surtout pendant ce temps de pandémie où je bénissais ma ville, entre guillemets. Mais ah oui, oui, on priait. Enfin, si vous voulez, avec il y a la prière de Saint Roch contre les épidémies. Et puis bon, on confiait Bagnères à Notre-Dame, bien sûr, un peu comme Lilloy.
Vous êtes aussi par ailleurs chancelier du diocèse, c'est ça?
Oui, oui.
Vous pouvez dire
les amis disent chamelier, c'est beaucoup plus joli.
Vous pouvez peut-être dire en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un chancelier du diocèse, et puis si vous aviez encore une autre casquette, dites-nous quelle est-elle.
Et alors, si vous voulez, le chancelier d'autrefois, c'est celui qui authentifiait les actes de son patron. Donc un roi avait son chancelier, un évêque avait son chancelier. Si vous voulez, l'évêque ou le roi pouvait signer n'importe quoi, le chancelier authentifiait en disant oui, oui, ça peut passer, ou c'est correct, ça va pas contre contre le droit canon, ou contre ceci, ou contre cela. Donc, essentiellement, c'est authentifier l'acte du patron. Voilà, le chancelier. Et en ce moment, c'est aussi ces problèmes de catholicité sur les certificats de baptême, sur les registres, tenir les registres, voir les problèmes de baptême, de mariage quand même. Si vous voulez, si quelqu'un se marie dans un autre diocèse, ça passe entre chancelleries. Ça va de diocèse à diocèse. Enfin, on essaie quand même qu'il n'y ait pas trop de...
Et votre évêque vous a pas rajouté une troisième casquette? Vous n'avez jamais que ces deux-là?
Oh, il y en a d'autres petites.
Par exemple?
Je suis avocat ecclésiastique. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir les équipes du Rosaire.
Les équipes Notre-Dame.
Et puis aussi, j'accompagne une équipe Notre-Dame.
Les équipes Notre-Dame, c'est donc ces équipes au couple, les équipes du Rosaire.
Alors là, j'ai accepté d'y être parce que j'ai la catégorie de jeunes ménages qu'on n'a pas aux églises. Et là, on a les 40 ans, les 30-40 ans.
Voilà, diocèse de Tarbes et Lourdes, zoom sur la paroisse de Bagnères de Bigorre. On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver nos invités pour mettre quelques coups de zoom sur quelques-unes des réalités paroissiales ici. Donc L'Accordé, c'est un journal qui fonctionne bien pour ce secteur paroissial. Voilà, presque un habitant sur 4 ou sur 5 qui est touché par ce trimestriel. On parlera de l'accueil Notre-Dame pour essayer de se rendre présent à cette pastorale du tourisme, ou en tout cas un tourisme un peu particulier en l'occurrence, toutes les visites aux personnes malades de ce lieu. Et puis on fera connaissance avec l'une de nos invitées, Joëlle Pradé, qui est d'une certaine manière comme correspondante d'un village, les petites lumières de ce secteur paroissial qui devrait briller dans tous les villages.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Diocèse de Tarbes et Lourdes, zoom sur la paroisse Bagnères de Bigorre. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On se balade, on défie, on va dire, les circonstances et on reprend les bonnes habitudes d'aller dans les diocèses à la rencontre au plus près du terrain de tous les trésors de la vie chrétienne. Des émissions importantes, s'il en est. Souvent, quand on est dedans, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. Et pourtant, quand on regarde ça de loin, c'est l'occasion de bien des émerveillements autour du plateau. plateau. Donc Antoine Mérillon, vous êtes prêtre du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, donc doyen du secteur paroissial du Haut-Adour. Pierre Gardère, vous êtes diacre de ce secteur paroissial. Alain Botte, qui est officier à la retraite de la marine et responsable de l'accueil Notre-Dame. Et Joël Fradet, qui est catéchiste et relais pour le village de Montgaillard. Alors, dans cette deuxième partie, on va mettre quelques accents sur la réalité paroissiale qui est la vôtre. Peut-être un mot d'introduction, Antoine Mérillon. Vous disiez donc une ville de 8000 habitants, une pratique qui tourne à environ 1%, des réalités assez variées entre Bagnères de Bigorre et puis les villages qui sont autour. En préparant l'émission, vous me disiez que vous aviez quand même quelques attentions particulières, si possible donc à la jeunesse. Et puis à la pastorale du tourisme, c'est ça un peu les deux grands axes, on va dire, pastoraux de la paroisse, ou les deux axes forts.
Oui, puisqu'on est, il faut pas oublier aussi qu'on est sur les chemins de Saint-Jacques, hein, sur le chemin de Piémont de Saint-Jacques, d'où aussi l'accueil Notre-Dame, qui en parlera tout à l'heure. Et donc Pierre, qui a été responsable de la pastorale du tourisme. Donc effectivement, pour les jeunes, c'est l'avenir, et donc on essaie d'être auprès d'eux. Et nous, pour cela, nous sommes aidés par, bien sûr, des paroissiens, et aussi notre responsable, c'est une religieuse du Carmel de Bagnères que nous avons, sœur Marie.
Alors, on l'a pas dit, mais oui, donc vous avez un Carmel ici.
Voilà, un Carmel apostolique.
Oui.
Elles sont pas cloîtrées.
Elles sortent.
Elles sortent. Et donc, sœur Marie, qui est la responsable de la catéchèse sur notre ensemble paroissial, et qui aussi s'occupe de l'aumônerie du gros collège que nous avons, Blanche-Audin, et du lycée Victor Duruy.
C'est des carmélites apostoliques,
voilà,
qui viennent de loin.
Et alors, si vous voulez, c'est une branche polonaise, mais qui a quand même des Françaises. Et donc, la bannière, la tête de pont pour la France, et c'est le noviciat, et nous avons déjà, elles ont déjà 4 ou 5 religieuses françaises.
Donc elles sont là, et puis on aurait dû citer aussi, pour être tout à fait exhaustif, il y a aussi des filles de Notre-Dame des Douleurs, voilà, qui ici donc s'occupent d'une maison de retraite. Il y a une réalité paroissiale belle. C'est un journal, c'est un trimestriel qui s'appelle L'Accordé. On a un homme de presse ou un ancien homme de presse autour de du plateau, donc Pierre Gardère. Vous êtes diacre donc, et alors là vous êtes, semble-t-il, un Bigourdin pure souche, m'a-t-on dit, un enfant du pays comme vous le dites vous-même. L'Accordé, c'est donc un journal qui est tiré donc à peu près à 1000 exemplaires, avec un taux de prise en main plus élevé, ce qui fait que vous rejoignez presque quoi, une personne sur 4 ou 5 qui tombe un jour sur votre canard, comme on dit.
Oui, on dira 1 sur 4 à peu près. Hein, c'est à peu près la moyenne que l'on trouve au niveau national. Mais enfin bon, comme c'est un trimestriel, sa durée est quand même relativement longue. C'est pas une durée comme pour.
Donc ça traîne longtemps sur la table. Donc le taux de prise en main est encore plus grand. C'est ça que vous voulez dire.
Oui, parce que bon, nous avons, je crois, 950 abonnés, enfin, personnes qui nous envoient un bon de soutien. Vous voyez, donc.
Alors, comment vous envisagez ce journal, en fait? Est-ce que quel est le but de ce journal? Pourquoi a-t-il été créé?
Alors, déjà, il a été créé pour créer un lien entre les différentes paroisses. Les anciennes paroisses, disons, les communes. Nous avons donc 27 communes sur l'ensemble de notre secteur. Donc c'est un lien entre les différentes communes. Parce qu'il se compose, mais je pense que vous allez me poser la question, de quoi il se compose. Donc,
ça c'est les journalistes, vous voyez, il fait les questions et les réponses, ça ils sont forts. Hein.
Pardon.
Sur la mission justesse, c'est quoi? Ça se veut faire du lien, je vais y arriver, entre les paroissiens, mais c'est quoi? C'est aussi un outil d'évangélisation plus largement?
Oui, je crois. Si vous regardez les quatre là, ils sont en train de hocher de la tête, donc ça veut dire que oui, c'est l'outil d'évangélisation qui rentre dans les maisons.
Ça veut dire que pour vous, le rêve, quand on a là ce dernier numéro, donc que j'ai sous la main, les éditeurs le voient pas, où on voit donc un enfant Jésus avec Joseph travailler, c'est quoi? C'est le petit-fils qui a 20 ans ou 45 ans, mais qui met pas les pieds à l'église, il tombe dessus et qui lise quoi en fait en priorité?
Alors bon, il faut être honnête, ce qu'ils disent d'abord, c'est les nouvelles des différentes communes, puisque nous avons un correspondant dans chaque commune qui nous envoie ces articles, et donc ils donnent des nouvelles de leur commune. Ça n'a pas été facile à mettre en place, mais parce que les gens n'en sentaient pas au départ le besoin. Et maintenant, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que lorsque une commune ne donne pas des nouvelles, tout le monde s'affole en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le correspondant est malade ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'un peu particulier ?» Donc, c'est ce lien, mais c'est aussi, comme vous dites, l'outil d'évangélisation, parce que nous avons à l'intérieur un dossier donc qui, bien sûr, cette fois-ci, donc c'était évangélisé par le travail. La prochaine fois, ça sera évangélisé par le tourisme. Vous voyez, donc c'est des dossiers quand même avec donc une partie pastorale et une partie théologique. Et ensuite, nous allons sur les témoignages des gens qui vivent sur notre secteur, qui peuvent témoigner de leur foi, de leur vie auprès de chez eux. Alors c'est tout simple. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui sont loin de l'Église, qui nous donnent éventuellement leur avis là-dessus et qui permettent aux gens de pouvoir réfléchir.
Et vous avez des fioretis un peu justement de prise en main qui vous réjouissent, où vous avez vent de un tel et un tel qui sont pas du genre à mettre les pieds à l'église et qui vous disent bah tiens, ce journal il m'a posé des questions, il m'a fait cheminer, ou est-ce que en fait on sème un peu comme ça?
Oui, je peux vous donner une petite anecdote. C'était justement, puisqu'on en a parlé, de l'arrivée du Carmel. L'arrivée du Carmel à Bagnères, et donc nous en avions parlé sur la cordée. Et là, bon, il y avait un groupe de chasseurs qui était regroupés en train de discuter, et puis qui me voit passer, qui m'arrête et me dit « Dis donc, et sur la cordée, là, t'as parlé de l'installation là du Carmel, là, et, mais on les voit... »
Vous dire que c'était des chasseurs qui allaient pas à la messe avant de partir à la chasse, c'est ça?
Ah non, absolument, absolument. Voilà. Et donc, on voit les carmélites, là, tout ça, mais elles sont pas cloîtrées. Ah ben je dis non, maintenant il y a des carmélites apostoliques, donc elles nous aident dans notre mission, etc. Et là, le gars, sachant pas quoi dire, il me dit « Le pape le sait !» J'ai répondu oui.
Alors, la cordée, on imagine que vous êtes fiers, hein, parce qu'aujourd'hui, d'avoir un habitant sur cinq qui tombe sur ce type de journal, c'est important. Si vous deviez rajouter encore quelque chose, donc faire du lien, on entend que faire du lien, c'est un lien qui ne se fait en fait pas que pour les paroissiens, au final, hein, ça contribue à l'amitié sociale, hein, dont le pape François parle dans sa dernière encyclique, si importante, proche, faire du lien à tous les niveaux, y compris au plus petit qui est l'échelle du village, essayer d'être un outil d'évangélisation. Avec ça, on a fait le tour, ou il y a encore d'autres finalités, Pierre Gardère ?
Mais non, c'est le journal qui donne une âme à la vallée. Donc, on est surtout axé sur ces points qui sont importants pour nous. Mais peut-être qu'Alain pourrait nous citer une anecdote de ce qui se fait à l'Aïris, où les gens lui ont dit que c'était le lien, que c'était le...
Alors très bien, il vous passe la balle, ça tombe bien parce qu'on allait passer à vous, mais si vous restez sur l'accordé, Alain Bott, qu'est-ce que vous voudriez nous partager sur l'importance de ce journal ?
Eh bien, je pourrais dire qu'effectivement le mot lien m'a sauté à la figure des deux, trois articles, dans les premiers articles que j'ai fait. Une personne qui n'a jamais mis un pied à l'église de sa vie dit mais vous êtes les seuls à faire du lien dans le village. Grâce à vous, on sait ce qui se passe dans le village. Merci. Bon, j'étais tout étonné et... Malheureusement, je dirais 2-3 mois plus tard, il y a eu des obsèques. Ils étaient présents. Et on est venu parce qu'on savait que c'était vous. Ils n'avaient jamais mis les pieds à l'église. Alors, il y avait une quête. J'ai rien, excusez-moi. Enfin, ils étaient même gênés d'être là, mais heureux d'être là. Et tout ceci parce qu'effectivement, par la cordée, ils avaient pris connaissance qu'il y avait une vie autre qu'une vie municipale. Il y avait également une vie spirituelle qui était faite par l'Église catholique.
Et on sait l'importance dès qu'on sort aussi hein, des grandes villes ou des grosses villes, l'importance de ces journaux, parce que c'est plus difficile d'avoir des nouvelles. Alors on va passer donc à l'accueil Notre-Dame. C'est ce lieu donc, Alain Bott, dont vous avez la responsabilité. Je rappelle que vous êtes donc officier de la marine à la retraite. On vous a confié cette belle responsabilité. On est loin là, on a oublié de le dire, mais on est au presbytère donc de l'église de Bagnères de Bigorre. Où se situe cet accueil? À quoi il ressemble?
À 500 mètres d'ici, au cœur de la ville, en face de l'hôpital de Bagnères de Bigorre.
Et alors, qui vient toquer à cette porte? Parce qu'il y a des complexes hôteliers quand même. Hein.
Oui, alors...
On voit bien que c'est une ville thermale quand on se bat dans le centre, parce qu'il y a des hôtels un peu partout.
Absolument. Bon, ce n'est pas un hôtel, c'est une maison d'accueil. Accueil, ça veut dire hébergement et recevoir. Donc, effectivement, dans l'hébergement, nous pouvons accueillir, comme son nom l'indique, des proches qui ont des parents hospitalisés à l'hôpital de Bagnères de Bigorre, au centre de rééducation fonctionnelle, qui est un centre relativement important. Et ces proches qui habitent loin, qui n'ont pas trop de moyens, sont heureux de pouvoir leur rendre visite à moindre frais. Donc nous sommes là vraiment pour eux. Et j'ai un exemple très particulier d'un monsieur, ça fait plus de 5 ans qu'il est là. Son fils est vraiment gravement atteint. Et c'est souvent sa vie, sa nouvelle maison, sa nouvelle demeure. C'est quand même important également, nous, de pouvoir en rendre un tel service, de voir dans ses yeux, lorsque nous le rencontrons, on n'arrête pas de se dire merci. C'est réciproque. Ça fait partie de la première catégorie de personnes. C'est ceux qui nous émeuvent le plus, parce que là, on a des cas très graves, des personnes qui voient leurs proches décédés ou en fin de vie. Donc, il faut être là pour les accueillir, pour les soutenir.
Parce que donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie, il y a donc un centre hospitalier régional ici, important. Les gens viennent ici souvent quoi, pour des temps de rééducation, c'est ça ?
Alors oui, ce sont des fracassés de la vie qui sont parfois délocalisés par des hôpitaux type Purpan de Toulouse.
Qui quand on dit fracassé, c'est qu'ici,
fracassés dans
c'est,
le sens...
c'est les cas lourds qui, ouais, qui viennent en rééducation.
Oui, très très lourd, très très lourd.
Par exemple, accident de la route
Accident de la route, condamné à vie, voilà, dans le coma pendant des mois jusqu'à la fin de leur jour. Donc oui, il y a des cas très très lourds, très très lourds. Également des soins sur la mucoviscidose pour des personnes qui viennent très régulièrement. J'ai une famille d'Albi là, qui viennent très régulièrement. Et ce monsieur, il me meut toujours parce que bon, il veut rendre visite à son épouse qui est en face. Actuellement, il ne peut pas la voir, il peut l'apercevoir. C'est très difficile, donc on essaie de lui apporter un peu de chaleur, ne serait-ce que discuter avec lui. Voilà, ce sont des cas qui nous touchent beaucoup et c'est vraiment très important de dire, c'est vraiment une maison d'accueil d'abord pour ces personnes-là.
Donc, première fonction, donc accueillir les personnes qui viennent visiter des personnes malades. Et donc, il y en a un certain nombre. L'autre fonction...
Nous accueillons sur le chemin du Piémont des pèlerins ou des touristes ou des randonneurs, puisque maintenant, il y a des itinérants qui ne sont pas forcément que des pèlerins, qui cheminent le long du chemin du Piémont. Pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle.
C'est un chemin très fréquenté. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui passent ici par an ?
C'est difficile à dire, mais nous en accueillons à peu près entre 300, 400, 500 selon les années. C'est un petit chemin peu connu par rapport au chemin de Vézelay, évidemment, ou du Puy, bien évidemment. Mais cela dit, il mérite d'être connu et je pense qu'il va être de plus en plus fréquenté. Parce que le pèlerin, le touriste littéral est à la recherche aussi de nouveautés, de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres. Effectivement, le site géographique s'y prête. Nous avons Lourdes à côté, situé entre Saint-Bertrand-de-Comminges et Lourdes. Il est évident que de nombreux pèlerins se sentent attirés.
Alors comment vous vous y prenez ? Parce que quand on accueille à Saint-Bertrand-de-Comminges, on va dire que c'est assez facile. Hein, on leur fait visiter la grande basilique et du coup, il y a toute une dimension un peu catéchétique. Vous, comment vous faites ?
Nous, on ne fait rien. C'est eux qui viennent à nous. Nous sommes sur le passage. Ils savent que nous existons. Nous essayons de nous faire reconnaître. Nous sommes une halte pratique au sens concret parce que l'homme a besoin de manger et de boire. Nous sommes en pleine ville, il peut faire ses courses, il peut se ravitailler. Et également, à moindre frais, il peut être logé, hébergé, sachant qu'il est sur un axe privilégié, ou pour faire du tourisme, et tout près de Lourdes. Ce qui veut dire que de nombreux pèlerins ou itinérants, comme on le dit aujourd'hui, sont vraiment à la recherche de ces rencontres. Et c'est ce qui est intéressant pour nous, et c'est, je l'ai remarqué, pour de leur côté également, c'est de pouvoir discuter, échanger avec nous. Dans le sens où nous avons des locaux communs, un peu comme une auberge, une cuisine commune, une salle à manger commune. Et ceci permet des rencontres qui sont absolument extraordinaires. J'ai un exemple, c'était il y a 2 ans. Un premier pèlerin, qui fait son premier chemin vers Compostelle, était épuisé, écrasé par la chaleur. Il n'arrivait pas à s'en remettre. Donc une de nos bénévoles l'a accueilli. Le lendemain, il ne pouvait toujours pas repartir. Il était épuisé. Elle s'est occupée de lui. Elle a vraiment essayé de le réconforter. Et avant de partir, il est allé acheter un bouquet de fleurs. C'était quand même assez extraordinaire. Quelques mois plus tard, un autre couple de bénévoles qui sont parmi nous arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il le rencontre. Il leur saute au cou. Première chose qu'il leur dit, j'ai jamais oublié ce que vous avez fait pour moi à Bagnères. C'était extraordinaire. Bon, voilà. Des témoignages comme ça, ça nous parle. Donc c'est un exemple, tout simplement, on est là pour eux.
Donc l'accueil Notre-Dame, c'est donc cet accueil, on entend pour des personnes aussi qui n'ont pas des gros moyens, donc y compris les pèlerins. Il y a donc 10 bénévoles qui font tourner ce lieu, grand, on va dire comme une école primaire, m'avez-vous dit. Vous diriez que c'est un lieu de... C'est un thème qui est cher au pape François, hein. Il aime bien que... Il voudrait que toute l'église soit un hôpital de campagne, ça ressemble un peu à un hôpital de campagne, vous diriez, vous qui avez été militaire ?
Oui, on peut dire ça aussi, mais c'est également une école primaire. Dans le sens où nous accueillons des catéchistes, des l'aumônerie, donc ça fait partie aussi de la jeunesse qui souhaite être évangélisée. Donc on parlait tout à l'heure des carmélites, qui également, avec notre ami Joël en particulier et d'autres personnes bénévoles, viennent faire le catéchisme dans les locaux que nous mettons à leur disposition.
Voilà pour l'accueil Notre-Dame, donc une autre belle réalité de cette réalité paroissiale. Alors on va maintenant aller se balader du côté de Montgaillard avec vous, donc Joël Fradé. Donc vous êtes donc catéchiste, hein, on l'a dit, peut-être qu'on en reparlera. Donc vous habitez surtout donc dans ce bourg de 800 habitants, m'avez-vous dit. Et alors vous êtes, alors il y a de multiples noms comme ça, personne relais dans le village, correspondant du village, bref, un peu cette personne indispensable qui est là pour veiller à ce que, j'allais dire, l'église ne meure pas, le mot est peut-être un peu fort, mais à ouvrir, fermer l'église, faire du lien. Et récemment, donc, vous avez constitué, avec d'autres, donc, une communauté ecclésiale de base à Montgaillard. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté ecclésiale de base, Joël Fradé ?
Alors, une communauté, la communauté que nous avons voulu monter ensemble, c'est justement pour, on est 7 à 8 personnes, et puis comme on entendait parler beaucoup de la mission par le pape François et par notre évêque aussi, Monseigneur Brouvet, on s'est dit, bien, nous on pourrait peut-être aussi faire quelque chose, amener un petit peu notre pierre à l'édifice de cette évangélisation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à Montgaillard ? Alors, c'est vrai que l'église de Montgaillard est vraiment excentrée du village. Elle est sur une petite hauteur. Et pour l'ouvrir, c'est difficile parce qu'on ne peut pas la laisser ouverte. Il y a des personnes qui passent et puis bien souvent des personnes malveillantes.
Des risques de chapardage, comme on
voilà,
dit.
Voilà, et puis dans cette église, elle est très très belle. Et il y a beaucoup
De choses à voler.
De choses à voler, voilà, notamment des statues, des belles statues de saints, de saintes, qui ont été offertes par des habitants de Montgaillard pour remercier comme des ex-voto.
Alors, ça demande du courage comme ça de se mettre en route. Vous êtes combien maintenant dans cette petite équipe de communauté ecclésiale de base ?
Nous sommes 8 personnes. Hein, et donc, ça, de tous âges, hein, ça commence à 30 ans jusqu'à 80 ans. Donc, on est une petite équipe comme ça.
Alors, vous vous êtes fixé un peu un objectif, un rêve. Hein, alors là, on va dire qu'on est en pleine période de confinement, déconfinement, ça n'arrête pas. Donc, c'est un peu l'ambiance d'accordéon pour toute réalité paroissiale. Mais si vous deviez un peu vous projeter à 5 ans, à quoi vous aimeriez que ça ressemble ? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir réussi à faire dans ce village ?
Alors, ce qu'on aimerait faire, c'est justement avoir, comme monsieur l'abbé disait, il y a très peu de monde à la messe. Donc, avec cette communauté, on pourrait peut-être, en allant voir les personnes, en leur parlant, en visitant des personnes qui sont seules ou malades, leur proposer de l'aide pour justement faire un lien entre l'Église et ces personnes qui sont seules et puis malades.
Alors vous me disiez aussi donc ouvrir et fermer l'Église.
Ouvrir et fermer l'Église.
Hein, faire en sorte aussi qu'il y ait un temps dans la semaine où vous êtes présent pour prier aussi, si les gens d'aventure voulaient prier avec vous.
Organiser des temps de prière, hein, même organiser aussi des temps de louange avec des chants. On a aussi imaginé avoir un temps de prière avec le tableau pèlerin de la Divine Miséricorde et faire le chapelet à ce moment-là. Nous avons aussi organisé une marche qui est partie de Montgaillard pour aller jusqu'à Lourdes lors du pèlerinage diocésain.
Ça fait combien de kilomètres, ça ?
Ça faisait à peu près une vingtaine de kilomètres.
Ah oui, ça va, vous êtes en forme dans le village, oui.
Voilà, avec les enfants du catéchisme et les parents du catéchisme. Voilà,
vous me disiez aussi qu'à terme, vous aimeriez aussi de temps en temps qu'il y ait des concerts dans l'église ?
Des concerts, oui, bien sûr. Des concerts, par exemple, la chorale du secteur du Haut-Adour, dont je fais partie aussi, on pourrait peut-être donner un concert à ce moment-là.
Antoine Mérillon, si dans chacun de vos villages, comme ça, il y avait des Joël Fradé, alors là, on la met en valeur, mais on imagine qu'il y en a d'autres qu'on aurait pu mettre en valeur, qui se donnent du mal pour que les églises soient ouvertes, donc qu'il y ait des temps de prière, qu'on aille à la rencontre des habitants, qu'on organise des événements, donc des concerts, bref, qu'on essaye en fait de faire vivre cette église au cœur du village. Est-ce que votre vie de curé serait transformée?
Certainement, puisque nous serions là pour les aider et puis surtout y participer quand on peut. Et surtout, si ça aboutit pour amener à nos messes, là, par exemple, à Mont-Gaillard, il y a la messe au moins une fois par mois. Et donc, nous nous retrouvons, nous pouvons reprendre des forces et préparer justement cette communauté.
Qu'est-ce qui manque souvent pour oser faire le pas? Parce qu'on peut se dire, dans le fond, ouvrir, fermer l'église, prendre un temps de prière, organiser un concert de temps en temps, ça paraît pas fou.
Oui, c'est sûr. Là, ce qui manque des fois, c'est peut-être oser faire oser la rencontre. Et oser aller chez les gens, on a toujours peur de les déranger, ou ceci, ou cela. Or, je crois, c'est la belle chanson. Oser, Joséphine, et il faut oser. Et surtout, c'est la devise de notre évêque, Monseigneur Bouvet, laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Et je crois que, bon, et alors c'est formidable, c'est notre rêve. Déjà, notre ancien évêque avait essayé de lancer ces petites communautés proches et fraternelles pour un peu de levain dans chacun de nos villages. Bien sûr, Monseigneur Bouvet a repris, mais c'est difficile. Et bien là, ça a pris un peu à Mont-Gaillard.
C'est
et
difficile.
Donc, si ça peut servir d'exemple pour nos autres petits villages, ça serait
difficile,
formidable.
Mais pas impossible. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour continuer à évoquer la vie de votre secteur paroissial, de ce secteur donc du Haut-Adour, avec donc Pierre Gardère, entre autres. Portrait, ça va être un peu portrait d'un diacre, itinéraire d'un bigourdin pure souche aujourd'hui, pleinement dévoué donc à cette vie paroissiale.
Emmanuel Pella.
Diocèse de Tarbes-et-Lourdes, zoom sur la paroisse de Bagnères de Bigorre. C'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On se balade dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes pour cette première émission qui sera suivie d'une deuxième mardi prochain. C'est sorti trimestriel. Et je suis en compagnie donc d'Antoine Mérillon, qui est curé donc de ce secteur paroissial du Haut-Adour. Pierre Gardère, qui est diacre sur ce secteur paroissial. Alain Botte, officier de marine à la retraite, qui est donc responsable de l'accueil Notre-Dame. Joël Fradet, qui est catéchiste et donc personne relais dans le village de Montgaillard. Pierre Prader, vous avez accepté donc de parler un peu à la première personne du singulier. Je vous en remercie parce que pour un homme un bigourdin pure souche et un homme de la montagne, ce n'était pas gagné d'arriver à vous faire parler de vous alors qu'on ne se connaît, on se connaît peu. Mais c'est l'occasion aussi de rencontrer un peu des témoins en cas de quoi de notre région, pour ceux qui se désolent, qui ont l'impression qu'il n'y a plus de chrétiens, que l'Esprit Saint ne travaille plus les cœurs. Eh ben, on essaye de faire la preuve par l'exemple que ce n'est pas la réalité. Alors déjà, bigourdin pure souche, ça veut dire quoi? Il faut être là depuis trois générations, Pierre Gardère. En général, c'est ce qu'on dit des Parisiens. Ces trois générations, ça fonctionne comme ça chez vous aussi dans votre vallée?
Il y aura même un peu plus.
Ah, c'est-à-dire c'est 10, vous, ou c'est...
Ah, écoutez, je n'ai pas mon arbre généalogique avec moi, mais on retrouve effectivement des arrière-arrière-grands-pères qui étaient du côté de Tarbes-Audos et qui étaient laboureurs. Donc, souche bigourdane, ça c'est sûr.
Donc vous êtes un enfant du pays, vous avez vécu une grande partie, vous êtes parti quelques temps, je crois, un petit peu quand même.
Bon, écoutez, bon, j'ai vécu toute ma scolarité, oui, ici, dans la Bigorre, puisque j'étais à SMP de Bigorre, comme beaucoup de jeunes qui avaient quelques idées vers le sacerdoce. Et puis ensuite, bon, je suis parti, oui, un petit
peu. Ça veut dire que vous avez fait le petit séminaire,
hein? Oui, voilà, c'est voilà. Ça.
Non, mais il faut le dire, parce oui, que oui, aujourd'hui, ça, voilà, c'est oui. Certains pour qui c'est...
Voilà, et ensuite, donc, je suis parti, effectivement, sur la Somme, donc pendant un certain temps, où... Je faisais partie d'une petite congrégation qui s'appelait les auxiliaires du clergé. Et en même temps, moi, j'étais facteur puisque j'avais déjà eu la possibilité de travailler à ce moment-là. Et donc, on mêlait les deux. Et puis, je menais en même temps les études, ce qui m'a permis de passer mon bac à Amiens.
Alors,
à côté de chez moi.
Sur votre enfance et sur votre adolescence, vous diriez quoi? Vous êtes né dans une famille chrétienne et vous avez toujours eu la foi, Pierre Gardère?
Oui. De ce côté-là, oui. Ma famille m'a vraiment inculqué cette foi parce qu'ils en étaient totalement imprégnés. Et bon, on se posait même pas la question sur la foi. Le dimanche était quelque chose de tout à fait normal d'aller à la messe le dimanche.
On peut aller à la messe le dimanche sans croire vraiment en Dieu, ça arrive.
Oui, non, mais d'accord, mais au-delà de ça, quoi, il y avait le catéchisme, il y avait une foi qui était permanente puisque bon, c'était le chapelet tous les soirs, c'était des prières, donc la famille a vraiment tout fait, si vous voulez, pour m'inculquer cette foi chrétienne.
Ça, je vous avais demandé de choisir un souvenir comme ça de votre enfance. Vous m'avez dit que c'était à 7 ans. Vous étiez au petit séminaire. C'était les 100 ans des apparitions de Lourdes, donc 1958. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Pourquoi ça vous a marqué comme ça?
Non, j'avais 10 ans. Hein.
10 ans, pardon.
10 ans, oui, c'est pas grave. J'avais 10 ans. Oui, ça m'a marqué énormément parce que on n'était pas souvent à SMP. On était plus souvent à Lourdes qu'à SMP. Donc, on vivait des moments vraiment exceptionnels. On a vécu bien sûr la bénédiction de la basilique Saint-Pilis, la consécration avec le futur pape Jean XXIII qui s'appelait à ce moment-là le cardinal Roncalli. C'est un exemple parce que bon, on a vécu aussi, je faisais partie des petits chanteurs de Notre-Dame de Lourdes, donc c'était quelque chose qui pour moi était vraiment très important parce que si j'ai la foi aujourd'hui et si j'ai l'engagement que j'ai, je le dois quand même à Notre-Dame de Lourdes. Hein, parce que bon, pour ma famille, Notre-Dame de Lourdes, c'était tout. Quand on avait besoin de quelque chose, on priait Notre-Dame de Lourdes.
Ça veut dire qu'à 10 ans, quand vous étiez donc à Lourdes pour ces centenaires des apparitions, ça vous a marqué aussi parce que du coup, vous, toute votre vie, vous avez cru dur comme fer, en fait, aux apparitions de Lourdes. Et vous avez une vraie dévotion pour la Vierge, vous diriez, c'est?
Oui, pour la Vierge, oui. Oui, pour la Vierge, oui. Mais écoutez, c'est notre maman du ciel. Pour moi, c'est central. Hein. Elle nous amène à son fils, comme dit Monsieur le curé de Bagnères. Faut passer quand même par la Vierge Marie pour aller vers le fils. C'est notre principal soutien. Et donc, quand on a besoin de quelque chose, on passe par la Vierge.
Alors vous êtes lancé dans une vie professionnelle, vous avez donc travaillé entre autres comme journaliste, mais pas que, vous êtes aussi beaucoup occupé de la pastorale du tourisme, on y reviendra. Comment est-ce que vous êtes tombé dans le diaconat, si je puis dire, Pierre Gardère?
Oh, c'est tout un cheminement, hein. C'est tout un cheminement. En sortant donc du séminaire, en commençant ma vie professionnelle, J'avais quand même une vie d'église qui était assez forte, soutenue par les prêtres, et en particulier le père de Pyris, qui pour moi a été plus qu'un père, quoi. C'est quelqu'un qui m'a quand même qui m'a permis, à des moments de doute, parce qu'on a tous des moments de doute, de revenir, si vous voulez, sur le droit chemin et d'avancer. Bon, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'engagements, je me suis occupé de chorale, je me suis occupé, bien sûr, de tout ce qui concernait le tourisme, tout ça, mais...
Mais alors, comment on saute le pas du diaconat, en fait? C'est qu'un jour, on vous interpelle, ou c'est que...
Non,
on a envie de se donner encore plus?
Il y a eu tout un cheminement à ce moment-là qui faisait qu'effectivement, bon, on me disait, bon, ben, il faudrait que tu penses au diaconat. Mais vous savez, quand vous avez les activités professionnelles, que vous avez la famille, que, bon, c'est pas toujours facile non plus d'engager tout le monde. Puis le diaconat, il faut pas le voir non plus de manière unique. Il y a aussi, quand on est marié, on est deux. Et donc, il faut que votre moitié accepte. Si elle accepte pas, c'est pas facile. Bon, et nous n'avons pas, enfin, dans les couples, il n'y a pas la même foi des uns et des autres. Donc, il faut arriver à pouvoir éventuellement à un moyen terme. D'autre part, bon.
Comment vous présenteriez alors ce ministère de diacre à ceux qui ne le connaissent pas? Qu'est-ce qu'un diacre et à quoi il sert?
Pour moi, rien que le mot est important. Diacre, serviteur. Et il faut se mettre dans la place d'un serviteur. C'est-à-dire que j'essaye d'être là où on a besoin de moi, et surtout pas là quand on n'a pas besoin de moi. Pour moi, c'est très important parce que j'ai été donc ordonné en 2001, et depuis, bon, mais je suis au service des prêtres du Haut-Adour, et je vous que je vis des moments vraiment exceptionnels par le service. Par le service, parce que Joël parlait tout à l'heure de la fraternité et des choses comme ça. Mais et c'est très bien, et je suis là pour les aider, les encourager s'ils ont besoin. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut quand même qu'on ait un contact avec toutes les personnes que l'on peut avoir. Moi, j'ai à peu près 400-500 familles que je suis, qui me connaissent, parce que bon, ils m'ont vu vivre avant le diaconat, et maintenant que je suis diacre, automatiquement, on vient me voir, et des fois même, on vient me voir plus facilement qu'on va voir un prêtre.
Oui, Antoine Mérion me disait que, de fait, voilà, vous étiez comme un vicaire pour lui. On peut dire aussi donc que vous avez perdu votre épouse.
Non, je
il l'a dit. Hein, donc en tout cas,
j'aime pas.
On va pas y ergoter sur le sujet. C'est pas forcément le sujet. Donc en tout cas, on peut dire aussi que votre épouse donc est décédée en 2015. Et vous me disiez vous-même donc ça vous laisse encore plus de temps pour vous donner à ce diaconat, que voilà, vous commencez vos journées tôt et vous les finissez tard. J'aimerais qu'on finisse cette émission par une note importante d'espérance. Vous êtes occupé donc pendant longtemps de la pastorale du tourisme. À tous ceux qui se désolent un peu qu'il n'y ait plus de chrétiens en France, ou en tout cas qu'il y en ait beaucoup moins qu'avant, et surtout que l'annonce de l'évangile soit parfois bien difficile apparemment, vous dites qu'en fait c'est pas forcément une très bonne chose de se plaindre. Vous dites on est là pour semer, si on part du principe qu'on est là pour récolter, forcément on va se décourager. Expliquez-nous.
Ben écoutez, d'abord, bon, le tourisme, c'est pas partir à la plage et à la montagne quand on fait partie de la pastorale du tourisme, c'est d'être au service. Donc ça veut dire qu'on est continuellement sur place. Donc pour moi, la pastorale du tourisme, c'est être à la disposition des gens qui viennent, qui nous font l'amitié et la gentillesse de venir chez nous. Parce que bon, on enlève le tourisme dans notre secteur, il reste pas grand-chose. Donc déjà les remercier qui viennent chez nous, pour moi c'est très important, et puis ensuite bon essayer de leur faciliter autant que faire se peut tout ce dont ils ont besoin au niveau pastoral et même au niveau écoute et même au niveau au niveau aide éventuelle qu'ils auraient besoin, aide matérielle.
Est-ce qu'on a aussi quelque chose de spirituel à apporter? Vous êtes attentif au fait que dans chaque église, il y a, on va dire, de quoi rentrer dans l'église, même parfois une vidéo, quelque chose qui donne à toucher du doigt la foi de ce lieu, la communauté sur place. Est-ce que la pastorale du tourisme, c'est un vrai lieu d'évangélisation, comme on dit, ou est-ce que c'est un peu une vue de l'esprit? Est-ce que vous avez des exemples qui aident à toucher ça du doigt pour finir?
Non, bien sûr. Bien sûr. Dans toutes les églises, c'est pas toujours possible. Joël l'a dit, il y a des églises où on est êtes obligé de fermer à cause de gens malveillants. Ça c'est d'ailleurs notre crève-cœur. On voudrait bien que toutes les églises soient ouvertes et qu'il y ait effectivement quelqu'un qui soit là pour accueillir le monde, etc. C'est pas toujours possible. Il faut être réaliste par rapport à ça. Par contre, on veille à ce que un numéro de téléphone soit indiqué de façon à ce que les personnes puissent venir, on les appelle, elles viennent pour ouvrir l'église. Et dans certains cas, elles le font visiter. J'ai l'exemple d'un maire où maintenant il est ancien puisqu'il est pas, il s'est pas représenté cette fois-ci, qui se dit athée, mais qui à côté de ça fait visiter l'église. Attention, pas que l'église Pierre ait fait visiter au niveau spirituel. Et donc, je trouve que c'est extraordinaire. Bon, d'autre part, il y a pas mal d'exemples là-dessus qui nous permettent effectivement, vous en avez évoqué un là tout à l'heure. Aidez-moi.
Lequel, je me souviens plus. En tout cas, pour finir, les Fioretti, un peu de cette pastorale du tourisme, vous en avez touché du doigt, on imagine, peut-être même ici, à Bagnères-de-Bigorre.
Oui,
des
oui,
gens qui,
oui,
ou,
oui,
via
oui,
l'accueil oui, Notre-Dame, des gens oui, qui oui. viennent, qui sont touristes, mais qui repartent avec autre chose. Et...
Oui, bon, d'une part, nous avons, par exemple, installé au fond de l'église de Bagnères une vidéo, alors qui parle de l'église, qui présente l'église, mais c'est à peu près la moitié. Mais l'autre moitié, c'est la vie de la paroisse, pour montrer aux gens que l'église, c'est pas qu'un lieu où on rentre, que l'on visite, c'est aussi un lieu où on vit. Et ici vit des choses importantes dans la vie des gens. Ici passe des baptêmes, début de la vie. Ici passe des mariages, moitié de la vie. Ici passe des enterrements, fin de vie. Et ça, c'est important quand même pour les gens. Et donc, il faut pas oublier que nous sommes la génération où on voit rentrer des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Jamais entendu parler de Dieu. Bon, pour nous, c'est quelque chose d'effarant. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Donc il faut se mettre à la portée de ces gens-là, leur expliquer ce que c'est qu'un autel, ce que c'est qu'une chaire, ce que c'est qu'un tabernacle, et il faut être là pour pouvoir éventuellement leur donner. Alors si on ne peut pas être là, il y a des moyens modernes maintenant qui nous permettent de pouvoir nous remplacer.
Et ben voilà, rencontre avec la cordée de Bagnères-de-Bigorre, j'ai envie de dire, pour reprendre le titre de votre journal trimestriel ici. Merci beaucoup d'être venu donc à cette émission Vivante Église pour connaître cette belle communauté chrétienne. Et il y a du travail. Dieu sait s'il y a du travail. Merci de toutes ces petites lumières que vous avez allumées. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.